Je trouve qu'on a eu un temps de préparation, d'adoration qui nous prépare à bien entrer dans la parole de Dieu. Et j'aimerais, c'est pas dans les diapositives, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Ésaïe 50, verset 4, pour donner le ton à ce que j'aimerais accomplir avec vous ce matin. Ésaïe 50, verset 4. Cet après-midi. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple attentif pour que ma parole, pour que par ma parole, je sache fortifier. C'est Isaïe qui parle, c'est un prophète de Dieu reconnu par Dieu, par le peuple d'Israël. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple attentif pour que par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués et il me fait tendre l'oreille. Matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Je vais relire le verset parce que j'aimerais que on ait ce matin un désir que l'on exprime à Dieu dans nos cœurs par la prière pendant que je parle, qu'on ait un désir de d'entendre au-delà de Daniel, qui est moi. Ça, c'est mon côté. Petit trait autistique. Est-ce qu'il y en a qui ont écouté « Tout le monde en parle » dimanche la semaine passée? Il y avait un humoriste québécois qui a découvert finalement qu'il avait des traits Asperger. Mais moi, j'écoutais ça et je me disais... Puis là, un des traits Asperger, c'est que il ne savait pas quand les gens étaient tannés de l'entendre. Je disais, c'est moi, ça, j'arrive pas à le savoir. J'écoutais ça en direct dimanche soir de la semaine passée. Le lendemain ou durant la semaine, Nelly écoute ça. Fait que je lui partage ma réaction. Nelly a dit oui, elle dit moi aussi, je trouvais qu'il y avait des petits traits qui te ressemblaient. Là, hier soir, on célébrait la fête d'Anne Michel, puis là, Jacinthe, ma belle-sœur est venue, puis je parlais de ça. Moi, ça m'impressionnait beaucoup. Alors là, Jacinthe a dit, oui, moi aussi, je reconnaissais des petits traits chez toi. Puis là, Sarah était là, Anne Michel était là, puis on a discuté de ces traits-là pendant une quarantaine de minutes, certains, parce que tout le monde était pas mal sur la même longueur d'onde. Et puis quand Sarah est partie, quand Sarah est partie, elle a dit, bon, papa, demain, tu vas avoir ton 40 minutes de gloire autistique. Alors, moi, je suis en train de suivre un cours avec Jean-Martin sur c'est un cours d'initiation à la spiritualité chrétienne. Et depuis que je suis inscrit à ce cours-là, on travaille une approche des Écritures qui est une approche d'écoute. Alors, puis dans cette approche-là, on dit apprendre à écouter Dieu dans la prière et dans la parole, ça nous aide à apprendre à écouter les gens autour de nous. Ça nous aide à écouter le besoin de la personne en avant de nous, plutôt que de donner une réponse trop vite. C'est un pasteur qui parlait, puis moi... Ben... Alors, là, quand la question d'Asperger était discutée autour de la table, j'ai dit, je l'ai ma solution. C'est que pendant que je parle, ben, c'est évident pour tout le monde, là, mais moi, ça ne l'est pas, je viens de le comprendre. Faut être à l'écoute. C'est ma solution. Je vais vraiment travailler avec ça. J'ai un cadre théorique maintenant pour travailler sur cette tension-là, cette difficulté-là que j'ai, de savoir quand le monde sont tannés de m'écouter, je vais être à l'écoute. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est en lien direct avec le message de ce matin. Puis, Ésaïe 50, au verset 4, parce qu'on a chanté des chants, on a prié, on demande à Dieu, on dit à Dieu, on n'a pas de parole pour te dire comment t'es merveilleux, viens lire les paroles dans notre cœur. C'est fabuleux, ça. C'est une partie importante de notre vie comme chrétien. Mais une autre partie importante, c'est d'être à l'écoute de Dieu. Alors, je vais relire Ésaïe 50, verset 4. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple attentif pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin afin que je l'écoute comme un disciple. » Le message de ce matin, j'ai changé le titre parce que les diapositives sont moins évoluées que ma réflexion sur le sujet. C'est « Tâche » parce que Paul, on est dans 1 Timothée chapitre 2, on est dans 1 Timothée chapitre 1 et 2, pour avoir le bon contexte pour comprendre le chapitre 2 sur la prière, il faut aller dans le chapitre 1 un petit peu. Et dans le chapitre 1, on voit que Paul donne à Timothée une tâche. Puis que Gilles nous en a expliqué un peu le mois dernier en quoi consistait la tâche de Timothée. Mais Dieu nous donne à nous aussi une tâche. Ce n'est pas juste écrit à Timothée. Timothée est mort. Puis nous, on a encore le texte. Et quand on regarde le texte de cette lettre apostolique, elle est apostolique à plusieurs sens. Elle est apostolique dans le sens aussi que Paul n'est plus là, Timothée n'est plus là, mais nous sommes là pour accueillir ce texte-là et en l'incarner dans nos vies, faire quelque chose avec, dans nos attitudes, dans nos vies, dans les conduites vers lesquelles nous invite ce texte-là. Alors, alors, le titre, oui. Tâche, combat, prière et attitude du disciple de Jésus-Christ. Parce que je pense que si on révise un peu certains passages clés dans 1 Timothée chapitre 1 et qu'on se concentre, comme on va le faire, sur une partie du chapitre 2, moi, je vois dans ça la tâche, le combat, la prière et l'attitude du disciple de Jésus-Christ. Là, ici, j'aimerais lire avec vous. J'ai toutes sortes d'outils. Là. Moi, je suis un peu... Romains 8, 26 à 27. J'aimerais qu'on regarde ce passage-là avant d'entrer dans 1 Timothée. Parce que des fois, prier, ça nous dépasse un peu. On ne sait pas pourquoi prier. On se sent tout croche. Ce passage-là, je trouve que ça dit, mais si toi, tu ne sais pas, l'Esprit le sait. Puis, fais-y confiance. Fais confiance à Dieu. Le Saint-Esprit le sait. Alors, de même, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer, et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Pendant le culte, là, pendant la première partie, je me disais, dans notre faiblesse, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est toutes les petites misères qu'on a eues dans la semaine, puis les grands troubles qui agitent nos cœurs, puis qui nous inquiètent par rapport à nos familles, par rapport à nos amis, par rapport à nos frères, nos sœurs, nos parents, les membres de l'Assemblée. Dieu, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Donc, Là, ce que j'aimerais faire, c'est de vous donner une petite introduction du chapitre 2 dans son contexte. Le sujet central du message ce matin, c'est la prière, telle qu'enseignée dans 1 Timothée 2, parce qu'il y a beaucoup de passages dans les Écritures qui nous enseignent d'autres choses sur la prière qui ne sont pas démenties par le chapitre 2, mais qui viennent alimenter le chapitre 2. Alors, le sujet ce matin est la prière enseignée dans 1 Timothée chapitre 2, dans son contexte de la tâche, du combat, de la prière et de l'attitude au service de Christ. Romains 8, 26, on vient de lire. Ésaïe 50, on vient de lire. Maintenant, j'aimerais regarder avec vous deux considérations de contexte. Premièrement, la plupart des traductions françaises, dans la plupart des traductions françaises, 1 Timothée chapitre 2 débute avec des mots comme « j'exhorte donc »,« j'encourage donc », »,« je recommande donc ». Alors, ça nous invite à prendre le chapitre 2 et à le mettre dans le contexte du chapitre 1. Et là, j'ai oublié, je voulais lire 1 Timothée 2 à ce moment-ci. Donc, si vous voulez tourner dans vos Bibles, je n'ai pas d'acétate pour ça. 1 Timothée chapitre 2, je vais lire les versets 1 à 9. À cause du fait qu'on a une plage de 30 ou 40 minutes, et mon message porte vraiment sur tout le chapitre 2, mais la partie plus compliquée à la fin, on va la reporter dans les discussions de la deuxième semaine sous la rubrique de l'attitude, des attitudes, le dernier point. Mais pour ce matin, on va lire jusqu'au verset 9. Et ensuite, je vais vous faire mes commentaires d'introduction. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et une vie qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur. Voilà ce qu'il approuve, car il, Dieu, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. J'ai été institué prédicateur et apôtre pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Verset 8. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Je veux que les femmes agissent de même en s'habillant décemment avec discrétion et simplicité. Qu'elle ne se pare pas d'une coiffure recherchée d'or, de perles ou de toilette somptueuse, je vais aussi lire le verset 10, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Le sujet central du message, je viens de le dire, premier élément de contexte, le « donc » nous ramène au chapitre 1. Alors, moi, je vais aller dans le chapitre 1, verset 3 à 7, et je vais attirer votre attention, surtout à ce moment-ci, sur le verset 5, parce que Paul donne à Timothée une tâche à accomplir qui consiste à, Gilles nous en a parlé de façon très élaborée, à établir les structures de l'Église et tout. Dans le texte ici, ce qu'on voit, c'est qu'une des tâches qu'il avait à faire, c'était de combattre contre ceux qui donnait des enseignements erronés, des enseignements qui tournaient vers le légalisme, on le voit vers la fin du chapitre 1, et aussi des enseignements au niveau d'une conduite qui était malsaine. Et ces gens-là étaient déjà implantés dans l'Église, et Timothée était une personne timide. Alors, ça représentait un défi pour lui, d'après ce que je comprends des textes. Alors, le but de la recommandation que Paul donne à Timothée au verset 5, chapitre 1, le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de ces principes. Ce que je vous suggère, c'est que le but, cette phrase-là, nous mettre sur une piste pour comprendre tout le reste de l'épître. Si on parle de missionnaires ou de gens qui ont un mandat apostolique auprès de leurs disciples, ils doivent exercer leur tâche avec amour. Ça, des fois, ce n'est pas comme ça que ça se produit, puis c'est primordial. Alors, ça, c'est un élément de contexte. L'autre élément de contexte que je trouve important, c'est que vous avez ici, vous avez tâche de Timothée. Ensuite, je vais revenir à notre tâche, parce que ce que je vous suggère, c'est que Timothée avait une tâche, puis nous, on a une tâche. Peu importe où on se trouve dans la société, on a une tâche à accomplir. Alors, mais ça, je vais y revenir dans un instant. Paul puisait sa capacité, on découvre au chapitre 1, verset 12, « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche. » Dans une traduction, ça disait « qui m'a donné la force de remplir cette tâche. » Ici, dans la Bible du Sommaire, « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche. » Alors, la capacité de Paul venait de celui qui l'a rendu capable de remplir cette tâche. La lecture que je vous propose de faire durant le mois d'octobre, c'est d'où vient notre capacité pour remplir notre tâche? Quelle est notre tâche? D'où vient notre capacité de remplir notre tâche? Et je ne vous suggère pas ça comme thème de discussion théologique. Je vous suggère ça comme une piste applicative. Parce que les questions sont un peu d'un autre ordre. Et on a ensuite au verset 18, Timothée, et là on rentre dans le combat. C'est le grand titre en haut. Et c'est aussi 1, 18 à 19, foi et bonne conscience. Le combat dans la foi et dans la bonne conscience. 1 Timothée 1, 18. « Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet en t'appuyant sur ces paroles. Combat le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. » Et là, on arrive au chapitre 2, verset 1. « Je recommande donc, en tout premier lieu, que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. » Et j'aimerais m'arrêter sur ce premier verset-là pour un instant et poser la question qui va être dans les questions de discussion. Dans les questions de discussion, quel était le combat? Et je l'ai traité. Pourquoi est-il prioritaire? Pourquoi la prière est-elle prioritaire? Et ensuite, à quel sujet sommes-nous invités? Pour quel sujet sommes-nous invités à prier et dans quel but? Pour qui et à quel sujet sommes-nous invités à prier et dans quel but? Donc, on dit ici, je recommande en tout premier lieu. C'est comme pas la première affaire qu'il leur dit, mais il leur dit de mettre ça en premier, la prière. Et dans le verset 8, il dit, c'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Il y a une priorité qui est mise dans la prière. Alors, pourquoi la prière est-elle prioritaire? Est-ce qu'avec une tâche comme celle que Timothée avait, est-ce qu'il pouvait être capable de faire cette tâche-là sans dépendre de Dieu. Et lorsque l'on prie, ça nous rend conscient que ça nous place devant Dieu et ça nous rend conscient que nous, ce n'est pas nous qui faisons les choses. Oui, nous les faisons, mais c'est Dieu qui agit à travers ce que l'on fait. Donc, il y a une dimension de prière par celui qui a la tâche pour être capable de faire la tâche. Et ensuite, il y a la dimension, que ça, je dirais que c'est implicite à cause des liens qui sont faits. De façon explicite, chapitre 2, verset 1, je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Alors, toutes sortes de prières. Les mots s'entrecroisent dans le sens n'importe quelle sorte de prière pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Pour leur bien-être à toutes et à tous, c'est pas... Oui, c'est le verset 2 fait un lien avec la possibilité de vivre dans une société qui est paisible et qui permet de vivre l'Évangile sans trop d'obstacles et sans trop de désordre. Mais dans le chapitre 1, il y a la notion de prier pour tous les hommes, ce qui veut dire que votre voisin vous propose une problématique dans laquelle il est bloqué. Votre voisin ne veut rien savoir de Dieu. Il est même un ennemi juré de Dieu dans tous ses propos. Mais il est votre ami et il vous partage un trouble. Ben oui, vous le savez tous, on le sait tous, mais là, ici, moi, je voulais insister sur le fait que ce passage-là nous invite à prier pour n'importe quel besoin de n'importe quel humain. Peu importe le genre d'humain que c'est dans sa dynamique spirituelle. Et évidemment aussi pour ceux qui... pour le salut, mais je veux vous attirer votre attention sur deux passages intéressants là, de l'Ancien Testament qu'on voit dans un livre, là, ceux qui font les discussions sur la mission le jeudi soir avec Paul et avec Gilles, là, on a ces versets-là qui proviennent de ce livre-là et qui sont intéressants parce qu'on a la prière de Salomon lors de la cérémonie d'inauguration du temple. Et Salomon dit à Dieu, « Quand l'étranger viendra prier dans cette maison, écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et accorde-lui tout ce qu'il te demandera. » C'est l'auteur du livre dit, mais c'est incroyable. Il n'y a jamais eu de prière comme ça, aussi ouverte, pour que Dieu réponde à toutes les prières des Israélites. Puis pour l'étranger, répond à tout. C'est la prière de Salomon. Accorde-lui tout ce qu'il te demandera. Ainsi, tous les peuples de la terre connaîtront ton nom et te craindront, comme le fait Israël, ton peuple. Alors, si on avait un petit doute sur la pertinence de prier pour des choses qui ne nous semblent pas en lien avec une démarche spirituelle, bien ici, les doutes se lèvent, en plus d'avoir 1 Timothée 2 qui est explicite là-dessus. Jérémie, aux exilés de Jérusalem à Babylone, ça se rapproche encore plus de nous, il dit « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone, recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien est lié au sien. » Et là, ça nous introduit au verset 2 dans 1 Timothée. Donc, on prie pour tous les hommes. Verset 2, toutes les femmes, tous les êtres humains. Que l'on prie pour les rois. Les rois, c'est une catégorie d'hommes. On peut prier pour le bien-être des personnes en autorité, en tant que tel. Mais au verset 2, on a que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et une vie qui commande le respect. Là, pendant que je réfléchissais à ce passage-là, je me suis endormi. Je dormais, j'étais dormi, j'étais fatigué, c'était le temps de dormir, puis j'ai rêvé. Il y a des rêves, des fois, qui vous frappent. Là, j'ai rêvé un rêve banal en tant que tel, mais moi, ça m'a frappé à plusieurs niveaux. Puis j'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps. J'avais l'impression que l'Esprit de Dieu travaillait dans mon cœur avec ce rêve-là. Puis le rêve, c'est tout simple. C'est que j'étais dans une salle de sport avec des jeunes. Puis il y avait un jeune qui était là devant moi. Là, et puis c'était marqué sur son chandail là, quelque chose comme « Nous jouons et nous n'abandonnons pas ». Puis là, il y avait un autre jeune, là, je décide de m'improviser son coach. Vous, ceux qui me connaissent, je ne suis pas sportif pour une minute. Alors, moi, je décide, bien, il fait, pauvre petit, il y avait personne d'autre. Fait que moi, je décide de devenir son coach, mais il ne venait pas à bout. Il venait pas à bout de mettre son équipement. Fait que là, moi, je me sentais vraiment démuni. Là. D'ailleurs, je me sentirais démuni dans toutes les circonstances qu'on me fasse de moi un coach. Mais là, je me sentais vraiment démuni. Puis là, le petit gars, il ne mettait pas son équipement. Puis, je l'invitais à mettre son équipement. Bien, il dit, j'ai rien. Lui, il n'avait rien. Il faisait partie des gens qui n'ont rien. Peter était directeur d'un camp de réfugiés. Congo, Rwanda, quelque part entre les deux, des gens qui n'avaient plus rien. Alors, le lien avec le message, c'est que... Ah, et là, je pensais, 1 Corinthiens, le lien, c'est que prier pour les personnes en autorité dans le monde, on a une crise humanitaire incroyablement majeure. On a des chefs d'État et des chefs d'entreprise, parce qu'il y a des Bill Gates qui donnent autant, pas Bill Gates, c'est-tu Bill Gates? Il y a un riche philanthrope qui donne 800 millions, c'est le même montant que le Canada donne pour la même cause. Ils sont un à côté de l'autre dans les dons pour aider je ne sais pas quelle cause. Alors, quand les Écritures nous disent « prier pour les rois », et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Mais je trouve que ça, c'est un exemple d'un sujet qu'on pourrait prendre à cœur puis qui pourrait, avec des déplacements politiques qui pourraient arriver bientôt, que je n'ai pas trop envie de rentrer là-dedans, on pourrait se retrouver avec des situations explosives, des situations très, très nuisible à l'équilibre planétaire. Et on peut prier pour le bien-être des personnes qui sont en train de débattre pour savoir lequel va être le chef bientôt parmi nos voisins sur la planète. Et on peut prier pour eux comme personne. Mais aussi, lorsqu'il y en a un des deux qui va devenir chef d'État, on peut prier pour ces chefs d'État de nos voisins-là, puis nos chefs d'État... À tous les niveaux de gouvernement pour les raisons que Paul nous dit et aussi pour leur bien-être. Et ça peut nous aider à avoir moins la rage au cœur quand on entend des choses qui nous offensent. Puis je pense que c'est très pratique, ça, cet aspect-là. Alors, je vous avais dit qu'il y avait deux éléments de contexte. J'en ai juste mentionné un. C'était le contexte du chapitre 2 avec le chapitre 1. L'autre élément de contexte, c'est qu'à l'époque de cette épître-là a été écrite, c'était écrite de Paul à Timothée. Timothée, il était à Éphèse, donc c'est de la culture romaine dans la ville d'Éphèse, puis aussi dans la ville de Corinthe. Il y a des textes qui ressemblent à la fin du chapitre 2, là, qui nous posent des problèmes. On ne comprend pas comment composer avec la distinction qui est faite entre les hommes et les femmes dans les passages de 1 Corinthiens 2 et de 1 Corinthiens 11 et de 1 Timothée 2. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une notion de propriété, d'adéquation sociale qui était en jeu. Dans 1 Timothée 2, il y a une argumentation théologique qu'on a de la misère à comprendre, la primauté d'Adam sur Ève. Ça, on ne saisit pas ça bien. Puis vers la fin du chapitre 2, il utilise ça pour parler de l'ordre entre l'homme et les femmes. Mais il y a aussi le fait que ce qui n'était pas approprié à cette époque-là, c'est comme le contraire d'aujourd'hui. Les femmes, pour les femmes, s'ils étaient habillées comme vous, là, ça aurait été un scandale pour les visiteurs. Ils auraient dit, voyons, d'où ils sortent, la gang-là? C'est toute une bande de prostituées. C'était ça. C'était comme, ça n'a plus rien à voir avec notre culture. Donc, le texte, il y a une dimension comme ça qui était impliquée dedans. Quand on regarde la fin du chapitre 2 et qu'on dit quel genre d'attitude qui était préconisée par Paul envers les femmes. Donc, il y a comme quelque chose qui n'est pas facile. Et dans les notes de discussion, il y a du matériel pour vous aider à regarder l'ensemble de tout ça. En gros, ce que ça dit, c'est que parmi les évangéliques et parmi les protestants et parmi les catholiques, la question n'a jamais été réglée. Puis tout le monde essaie de respecter les Écritures, mais ils n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Donc, il faut se respecter les uns les autres dans ces choix-là. Puis ce qu'on dit, c'est que les dirigeants des assemblées ont besoin de beaucoup d'amour et de beaucoup de sagesse pour savoir quoi faire avec ça. Donc, ça, c'est un élément de contexte. Un élément de contexte que j'ai... Ouais, ce n'est pas notre job à nous. Moi, c'est la tâche des croyants. Là. Ça, c'est la job des anciens. On n'a pas... Donc, à quel sujet sommes-nous invités à prier? Ça a été traité. Là, j'aimerais revenir dans mon chapitre 2 parce que... Ah, ça, je l'ai fait. OK, pour qui? Un peu plus loin. Qui prions-nous? Parce qu'une question que j'aimerais qu'on se pose, toujours en termes de s'approprier ce que nous dit le Saint-Esprit à travers cette première épître à Timothée-là de Paul, on prie qui? Celui auquel on a dirigé notre adoration dans la première partie. C'est quelqu'un, c'est Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Dans chapitre 1, verset 17, il y a une petite hymne à Jésus-Christ qui vraiment mérite d'être médité. Au roi éternel, c'est parce que c'est le roi. Puis dans une autre traduction, ça dit « au roi de tous les temps ». Mais ça, c'est comme, c'est pas César le roi de tous les temps, c'est Christ le roi de tous les temps. César, c'est un roi, là, mais Christ, c'est le roi de tous les temps. Immortel, invisible, au seul Dieu, soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. C'est ce Dieu-là à qui nous dirigeons nos prières. Et il y a plusieurs passages dans 1 Timothée qui sont dans cet ordre-là. Là, j'ai un peu la notion du temps mélangée parce qu'on est l'après-midi. Ça finit à quelle heure? Moi? Paul, à quelle heure je dois terminer? Quatre heures et cinq? OK, j'ai 5 minutes. OK, parfait, c'est parfait. OK, je ne t'ai pas cru. Je suis un sceptique. Le sceptique a été confondu. Alors, dans les questions de la semaine prochaine, je vous invite à vous arrêter là-dessus. Il y a plusieurs passages, ils sont dans cette présentation-là, ils sont dans une feuille que vous allez recevoir aussi. qui sont des, on pourrait appeler ça des doxologies ou des hymnes à Jésus-Christ, des hymnes à Dieu, qui mettent l'accent sur différents aspects de Dieu. Et même à l'intérieur de notre texte, 1 Timothée 2, bien, il y en a une qui met l'accent sur, non seulement sur Dieu puissant, mais sur le Dieu qui nous a aimés à un point tel qu'il a, il s'est porté volontaire, Jésus s'est porté volontaire pour venir être le sacrifice expiatoire, comme tu lisais dans Lévitique, Bruno. Je relis à partir du verset 1 parce que c'est tout connecté ensemble. « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, parce que Dieu les aime tous, les hommes, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, que l'on prie pour les rois. Dieu les aime tous, les rois. » Pas nous, pas, peut-être pas, mais Dieu, oui. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri, que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Ça, cette notion-là, elle est qui commande le respect dans la société. Alors, des traductions plus littérales vont dire piété. Ici, c'est traduit attachement à Dieu. Moi, je trouve que ça donne une explication plus facile à saisir. Attachement à Dieu et honorable, eh bien ici, ils disent qui commande le respect. Mais quand on lit dans les commentaires, on dit bien, ça, c'est le témoignage extérieur. Donc, dans notre prière, on prie pour une paix sociale, en fait, disent les commentaires, puis moi, je le vois comme ça aussi. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur. Voilà ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. À qui adressons-nous nos prières? Et l'autre question que j'aimerais que vous posiez dans les petits groupes et même maintenant, c'est la question de l'attitude. L'attitude dominante que je vous suggère, c'est l'amour. Et au fond, moi, je me suis rendu compte, quand tu regardes 1 Corinthiens 13, verset 6, ça dit « La justice attriste l'amour. L'injustice attriste l'amour. » L'injustice ne met pas l'amour en colère. L'injustice ne met pas l'amour sur un trip de culpabilité. L'injustice envers l'autre, on parle de l'injustice envers autrui, cette injustice envers autrui-là, ce n'est pas la colère ni la culpabilité qu'on est invité à ce qu'elle suscite, mais la tristesse. Et quand j'ai fait mon rêve, je me rendais compte qu'il y a la culpabilité, parce que je ne suis pas à la hauteur dans mes engagements d'un intérêt pour les crises humanitaires. Je ne suis pas là. Alors, je me sentais premièrement coupable. Non. J'ai dit à la culpabilité, non, tu n'as pas d'affaire là, je l'ai tassé, parce que ça n'a pas rapport. Puis, impuissant aussi. Et je me sens, des fois, sans colère aussi quand on voit des injustices envers les autres. Mais l'amour, ça l'attriste. Et si on n'est ni en colère, ni coupable, mais attristé par l'amour, en relation avec des situations humanitaires effrayantes, ça prend ça pour prier. Parce que si on a de l'indifférence, on ne prie pas pour les choses qui nous indiffèrent. Puis moi, le message, ce n'est pas « prions pour les réfugiés », c'est « oui, mais c'est un exemple ». Oui, mais ça ne veut pas dire « chacun doit sortir d'ici, prier pour les réfugiés ». Chacun doit sortir d'ici et se demander « pourquoi prier ?» Puis, y a-t-il des affaires pour lesquelles je ne prie pas parce que j'ai peur que ça, de ne pas être prêt à agir en conséquence, je me sens coupable? Alors, c'est ça. Donc, l'attitude première que je vois, c'est l'amour. Et quand je regarde, moi, les versets 9 jusqu'à la fin, je vois là une question d'attitude. Il y avait une problématique à Timothée dont l'incarnation spécifique à ce moment-là, c'était dans la tenue des femmes, dans leur désir de prendre la parole, de prendre l'autorité sur l'homme. On ne comprend pas tout à fait qu'est-ce qu'il y avait là, mais moi, je vous proposerais de ne pas, dans un petit groupe, dans 40 minutes, vous n'aurez pas le temps de sortir de là avec une réponse sur, si vous rentrez dans essayer de comprendre la situation. Mais vous pouvez vous demander, homme ou femme, est-ce que j'ai, moi, des attitudes qui nuisent à la communauté, moi comme homme, qui sont des attitudes qui sont équivalentes, même si ça ne s'exprime pas par la tenue vestimentaire, ça ne s'exprime pas par la façon dont je veux ou ne veux pas prendre la parole publiquement dans l'Assemblée. Alors, je vous invite à rester centré sur quelles attitudes nous avons à la communauté chrétienne des Deux-Rives qui nous aident à faire avancer l'œuvre ou qui nuisent à l'avancement de l'œuvre de notre communauté et à notre vie chrétienne. Pour terminer, notre vie, ça c'est la conclusion, tâche, combat, prière et attitude au service de Christ. Notre vie est au service de Dieu dans tous nos contextes, dans toutes nos sphères d'activité. Vivons-nous selon ce savoir? Est-ce qu'on le sait? Parce que des fois, on peut trouver que c'est banal, notre job. Mais non, c'est notre tâche que Dieu nous donne. C'est pas banal. Le maître de l'univers est souverain sur nos chefs d'État. Moi, personnellement, j'ai besoin de me rappeler de ça. Après-midi, je vais aller écouter un débat, je suis intéressé de savoir ce qui va se passer. Mais le maître de l'univers est souverain sur nos chefs d'État, puis les chefs d'État des dirigeants de la planète, sur nos dirigeants d'entreprise, sur tous ceux dont notre vie pratique terre-à-terre dépend. Parce que s'il y a une guerre, ça va aller moins bien, là. Il veille sur... Et moi, ça me rassure de voir ça comme ça. Je me dis, je refuse d'angoisser, puis je choisis de revenir constamment à me dire, « Seigneur, je te fais confiance, c'est toi le souverain de l'univers. » Dieu veille sur tous ceux pour qui nous prions. Il œuvre dans leur vie. C'est sûr, vous allez me dire, théologiquement, ça ne marche pas. Il veille sur eux pareil, mais moi, je vais vous répondre théologiquement. Moi, je ne comprends rien parce que Dieu nous dit de prier. Puis quand il prie, on voit dans l'Ancien Testament, un moment donné, il y a une armée d'anges qui viennent toutes détruire les ennemis. Dieu agit, on voit ça. Puis dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres de Jean, ça nous dit tout ce que nous demandons qui est conforme à la volonté de Dieu, Dieu le fait. Alors, il veille sur tous ceux pour qui nous prions, même si on ne voit pas la réponse. Il œuvre dans leur vie. Confions-nous en 1 Jean 4, 10. J'avais prêché sur 1 Jean 4, puis c'était la question de faire confiance à Dieu. Mais en réalité, ce que je voulais que soit retenu, ce n'est pas ça que j'ai entendu par la suite. J'ai entendu faire confiance à Dieu, s'abandonner. Ce n'est pas faux. Mais moi, ce que je voulais vous suggérer et ce que je vous réitère, et vous irez voir 1 Jean 4, 10, faire confiance en l'amour que Dieu a envers tous et envers nous. Il y a une petite nuance, là. Et joignons-nous à son amour par nos pétitions et nos remerciements. Alors, j'aimerais terminer avec un mot de prière. Seigneur Dieu, tu nous vois, chacun d'entre nous, avec notre humanité, nos imperfections, nos lacunes de tout ordre, mais tu vois aussi que nous sommes réunis ensemble pour, au meilleur de notre connaissance, apprendre à vivre pour toi et apprendre à rayonner pour toi autour de nous. Seigneur, merci pour ce temps qui a duré toute l'avant-midi, qui était vraiment un beau moment. Et merci pour la présence de ton esprit en chacun de nous qui croyons en ton nom. Amen.